Nous allons entendre le témoignage de Madame Jeanne Fouché. Vous nous avez dit que vous étiez née à Thury-Harcourt.
Oui.
Votre famille était originaire aussi?
Alors, pas originaire, non. Mais mon père, donc, qui était prisonnier à la guerre de 14-18, est rentré donc en 18. Et mes parents, qui étaient fiancés, se sont mariés en 19. Et mon père, qui était de métier, là, je pourrais en dire beaucoup parce que c'était une profession autrefois, l'épicerie. Et donc il s'est établi sur une épicerie qui se trouvait, non pas à vendre, il n'a pas acheté la maison, il n'a jamais été propriétaire, mais il a acheté le fonds d'une épicerie qui appartenait à la famille Bray. Je ne sais pas, ça ne vous dit rien à Caen, parce que beaucoup d'anciens canets connaissent les Bray. Ah ben, ils fabriquaient des chaises et c'était fait par les prisonniers de la prison.
Vos voisins.
Alors, c'est très curieux parce que c'était notre propriétaire. Bon, alors donc mon père s'est installé là comme épicier. J'aimerais un jour écrire en quoi ça consistait l'épicerie parce que il en faisait des choses. Il recevait des choses en gros, ses vins de Bordeaux et tout. Il mettait en bouteille et puis alors il aimait les produits. Bon, passons. Et donc, et puis nous sommes nés, nous étions trois enfants. Voilà, et mes parents ont toujours vécu jusqu'à la guerre, à Thury-Harcourt.
Et ils étaient normands, vos parents, ou ils étaient...
Alors oui, mon père était né dans la Manche, mais tout près de la frontière du Calvados, à Mont-sur-Aile.
Ah oui.
Alors, si vous connaissez la région de l'Aile, hein, la rivière Aile, un très beau coin. Voilà, et chose curieuse, j'ai une petite nièce qui est venue habiter à Sainte-Marguerite d'Elle. Alors maman, elle était née à Bréant-Bessin.
Vous êtes d'origine normande.
Oui,
et,
voilà.
Et vos parents sont allés s'installer donc à Thury-Harcourt pour des raisons professionnelles.
Oui.
Et vous y êtes née. Et donc vous disiez que vous aviez deux frères et sœurs.
Oui. Et on est tous nés. Là-bas.
Ah bah, et vous y avez fait vos études, jusqu'au brevet élémentaire.
Élémentaire, voilà.
Alors, quel âge aviez-vous quand la guerre a éclaté?
Alors, étant née en 22, la guerre éclatant en 39, c'est difficile, c'est pas facile, difficile, 17 ans.
17 ans.
17 ans et demi, quoi.
À 17 ans, on a déjà une pleine conscience de ce qui se passe. Comment avez-vous vécu
la déclaration, j'avoue que non.
Non.
Parce que quand on est jeune, je n'ai pas réalisé sur le coup. C'est après que j'ai réalisé un tas de choses. 17 ans, bon, on a la vie devant soi. La guerre, ah ben oui, on était tous inquiets. Puis on voyait les parents, tout ça. Bon, on sentait bien qu'il y avait de l'inquiétude dans l'air et tout le monde était bouleversé.
Puis, voilà. Et votre père n'a pas été mobilisé pour cette guerre-là?
Non.
Et votre frère non plus était...
Alors, si, j'ai eu un frère aîné qui a... Ah ben, il n'a pas été mobilisé. Oh là, ça va être... Non, c'est trop compliqué. Ouais. Il était en Tunisie à ce moment-là. Et mes parents lui ont dit, écoute, ne rentre pas en France parce que... il était, comment on appelle ça, engagé. Ouais. Et parce qu'il n'avait pas de situation à ce moment-là, alors il s'était engagé. Et mes parents lui ont dit, ne reviens pas parce que... Bon, n'empêche qu'il a été... Après, engagé là-bas en Tunisie, et il a fait partie de la deuxième DB. Il est revenu en Angleterre, il a fait partie de la deuxième vague de débarquement, et il a fait toute la libération, traverser l'Orne, la Manche, l'Orne, et puis jusqu'à Berchtesgaden.
Dites donc, effectivement, ça fait un beau circuit.
Oui, avec la deuxième DB. Hein, alors là, il en avait à dire, oui. Tout ça, on a été sans nouvelles, on ne savait pas. On a été des mois sans nouvelles. Et on recevait des messages qui provenaient du Caire, de la Croix-Rouge, on ne comprenait pas. Alors là, j'ai réalisé, ma pauvre mère, elle en a vécu des jours d'angoisse sans jamais rien.
Rien laisser transparaître.
Alors mon jeune frère, lui, étant plus jeune, il a 5 ans de moins que moi, eh ben, il était quand même à une mauvaise période, adolescent. Et puis, il a commencé à être, requis, les jeunes, pour aller planter les asperges romelles. plantés sur les plages, plantés sur tous les espaces planes pour empêcher les planeurs et les avions éventuellement d'atterrir. Alors ils étaient là-bas, mais il y avait l'aviation anglaise qui craignait. Alors, sujet d'angoisse encore.
Oui, c'est des expériences. Il a fait des choses. 5 ans moins que vous. Il avait 5 ans de moins que vous.
Oui. Alors, 17, 18, parce que là, ce que je vous dis, c'est pendant l'occupation.
Oui, c'est ça.
Il va falloir mettre quelques dates sur ces choses-là.
Bien sûr. Comment vous, est-ce que vous vous rappelez, est-ce qu'il y a eu une occupation de Thury-Harcourt?
Ah oui.
Et alors, comment ça s'est passé?
Alors, chacun a vécu l'occupation à sa façon, hein. Bon, j'avais écrit un texte il y a longtemps, mais il est trop long pour que je vous le dise, c'est dommage, parce que il va pourtant falloir que...
Vous nous en donniez des éléments.
Oui, je vais essayer d'être aussi bref que possible. Donc, pour nous, l'arrivée des Allemands à Thury-Harcourt s'est faite le mardi 18 juin. 18 juin, une date célèbre.
Oui. Alors, de quelle année? 40
40. 40. 40. Ah, oui, parce que l'invasion, mai-juin, par le nord, voilà. Alors, il y avait déjà quantité de réfugiés du nord, de Belgique, qui refluaient avec, disons, la terreur. Parce qu'on faisait courir des bruits qui se sont pas... Bon, il paraît qu'on les montrait comme c'était la terreur.
Ouais. Les Allemands, on les présentait
comme ça. Ouais. Bon. Et bon, parce qu'il y avait tous les bruits qui couraient, c'était... Hein. Alors qu'en fait, bon, ça s'est passé en douceur. Ouais. Après, il y a eu des problèmes. Enfin, à Thury-Harcourt, il n'y a pas vraiment eu de gros... Alors donc... Ce 18 juin, le 18 juin 40, moi j'étais à la perception donc à ce moment-là. Et alors, c'est difficile de résumer, il y a tellement de choses à dire.
Ils sont arrivés, est-ce qu'il y a eu une troupe de...
Pas où j'étais, moi, parce que j'étais donc à la perception, et ils étaient annoncés, et on ne savait pas trop par quelle route, par la route d'Aunay, non, ils viennent par la route de Caen. Comme c'était la pagaille, qu'il y avait des troupes, des soldats, la troupe française était complètement
super, hein.
Des scènes avec des soldats complètement éreintés et qui apostrophaient leurs officiers et qui leur reprochaient. Enfin, c'était pénible. Donc on les disait arrivant de partout, parce qu'effectivement, ils étaient partout dans le pays. Ils pouvaient arriver et on ne savait pas où c'était, tous les bruits couraient. Et alors, il y avait un groupe de soldats français qui étaient là, et qui y croyaient encore, apparemment. Ils avaient, je ne sais pas, un lieutenant ou un sous-lieutenant qui leur avait dit, il faut résister, et on avait installé une mitrailleuse dans la porte de la perception.
Vous étiez bien placé, alors, en effet.
Toujours est-il qu'aux ordres d'un lieutenant ou sous-lieutenant qui semblait y croire encore, des soldats installèrent une mitrailleuse sur le seuil de la perception afin de prendre en enfilade tout ce qui arriverait par la côte du château, donc du bourg. Sans doute en fut-il de même en face des autres voies d'accès, donc Aunay ou Caen. Devant ces préparatifs inquiétants, les réactions ne manquaient pas. Les pauvres, ils y croient encore. Ils ont reçu des ordres, ils doivent obéir. Mais les plus véhéments avaient d'autres arguments. Vous êtes fous, il n'est plus temps de résister, vous voyez bien qu'on est foutus. Vous allez nous faire tous massacrer, parce que... C'était évidemment la voie du bon sens. La municipalité, en termes plus diplomatiques, dut plaider d'eux-mêmes. Quant aux civils que nous étions, nous avions été fermement invités à regagner nos pénates. Bon, alors effectivement, il y eut cependant quelques échanges de balles. Un soldat allemand fut abattu en haut de la côte du château. Alors on craignait les représailles.
Bien sûr.
Ça c'est. Il fut enterré devant le château provisoirement. Et puis, alors moi j'ai regagné la maison de mes parents. Et bon, tout le monde s'est terré chez soi. Alors j'ai un autre petit épisode qui manque, alors justement, qui ne manque peut-être pas d'intérêt. Donc je suis rentrée chez moi Alors, mon père avait fermé les volets, c'était des volets en bois qu'on appliquait comme ça à l'extérieur, sur les vitrines, parce que je ne savais pas ce qu'allait se passer. Effectivement, pillage et compagnie, on a tout connu après. Et puis alors, on est monté aux chambres, et puis à travers les persiennes, sans faire de bruit. Et on avait une voisine, une brave personne qui était âgée, la preuve, qui était sur le seuil de sa porte, comme ça, les mains sur, derrière le dos, puis qui assistait à ça. Alors, papa dit, Madame Amiot, là, elle n'est pas prudente, il faut quand même... Et il est redescendu, lui disant, Madame Amiot, il ne faut pas rester là, vous savez, on ne sait pas ce qui peut se produire. Et cette brave femme qui était originaire de l'Est, oh, moi, vous savez, ça fait trois fois, ça fait la troisième fois que je les vois. Alors, vous comprenez. Et elle se rappelait en 1870, que la ferme de ses parents avait été occupée. On les avait relégués dans un coin de la cuisine avec une pièce unique, c'était en Lorraine. Et puis, ils s'installaient. Puis, bon, après, elle avait vécu 14-18. Et puis, alors elle les voyait pour la troisième fois, alors papa lui dit quand même, écoutez, c'est plus prudent, rentrez-vous. Alors elle s'est rentrée chez elle. Mais c'est une anecdote que j'ai jamais oubliée. Et
dites-nous peut-être, donc, ils se sont installés dans le pays, les Allemands?
Alors, c'était des réservistes. C'était des Autrichiens.
C'était un, moindre
c'était
mal,
un
là,
peu
là.
Plus rassurant. Ouais. Alors, et ils avaient de la cavalerie, enfin pour traîner leur... Et alors, si bien que, bon, ben, ils s'étaient installés. Alors, ils logeaient soit dans des... Je ne sais pas, des emplacements où ils pouvaient être nombreux. Les officiers se choisissaient les meilleures maisons, les bons.
Ils réquisitionnaient.
C'est ça, ils réquisitionnaient, et puis il n'y avait pas de. Oui. Je crois qu'on n'en a pas eu, nous. Non, parce qu'on n'avait pas tellement de place à disposer. Et puis alors, ben, petit à petit, alors ça crée de l'animation dans le pays, parce qu'avec leurs chevaux, il fallait descendre les abreuver à la rivière. Mmh. Et puis bon, alors en même temps, ben, ils essayaient d'acheter. Mmh. Alors comme c'était déjà, bon, c'était pas encore la grande pénurie, parce qu'il y avait des réserves, mais ça allait vite disparaître. Mais c'est que même, ils avaient faim parce qu'ils n'étaient pas... Parce que là-bas, dans le Grand Reich, tout passait pour la guerre. Et ils étaient privés d'un tas de choses. Hein. Le beurre, le chocolat, le... Bon, ils étaient privés d'un tas de choses, mais bon, ils ne le disaient pas, mais... Et alors, si bien que, ben voilà, ils s'étaient établis une sorte de... Comment dire, je ne vais pas trouver mon mot, mais je voudrais pourtant bien... tacitement, pas une entente, mais on pouvait pas les refuser. Donc
vous
ils étaient là,
les uns aux autres.
Ils étaient là. Oui. Je sais pas comment traduire ça. Il fallait bien les accepter.
Bien sûr.
Et sans leur faire d'avance, mais il fallait pas non plus les contrarier quand même.
Hein? Bon, ils n'étaient pas très méchants.
Ils n'étaient pas arrogants. Alors, ils avaient reçu tous des instructions. On l'a su après. Il fallait qu'ils soient corrects. Alors, effectivement, ils étaient corrects. Alors, beaucoup de gens se rassuraient, disant « Oh, ben, ils sont corrects. Oh, ben, ils sont gentils quand même. Hein. » Oui. Alors, il y en a qui ont tellement trouvé gentil que le marché noir, parce que le marché noir, il y avait des gens qui avaient des réserves. Et comme ils payaient cash avec la monnaie de singe, parce qu'il y avait la monnaie de l'occupant, ça ne valait rien du tout, mais on vivait avec ça.
Bien sûr.
Et alors, il y en a, ben...
Alors, oui, parlez-nous du marché noir, parce que vous, dont les parents étaient dans un commerce, vous avez connu l'étiquette, le ravitaillement, tout ça.
Voilà.
Comment ça se passait, alors? Et comment alors, papa a-t-il pu...
Oui, alors, les tickets étaient délivrés par les mairies pour chaque mois. J'ai pas eu le temps d'en rechercher, je dois en avoir quelque part encore, des tickets que j'ai gardés comme ça. Et alors c'était rationné en fonction de l'âge et du travail que faisaient les gens. Alors les paysans, par exemple, avaient droit à un peu plus. Les jeunes aussi, les adolescents, les adultes. Alors moi je ne me rappelle plus les proportions, mais je sais que le pain, moi j'ai toujours été mangeuse de pain. Bah, il y avait une tartine par jour. Au début, il y avait encore des réserves. Et puis, on était dans un environnement de cultivateurs. C'est Thury-Harcourt, c'est la ville, comme disait Dylan, Thury-Harcourt, c'est un gros bourg, d'accord. Mais autour, c'était des paysans, des agriculteurs. Et mon père avait une bonne clientèle des environs. Si bien que, il disait, mais surtout, M. Fouché, il ne faut pas manquer, hein, dites-nous-le. Bon, on évitait, hein, mais parfois... J'étais obligée d'aller un petit peu commander du lard ou une volaille. Mais c'est que les occupants, ils savaient bien aussi qu'il y avait des réserves et de la volaille et des choses dans les fermes. Alors ils écrémaient les fermes. Hein, à ça, puis là, il ne fallait pas leur résister. Hein. Mais bon, ils arrivaient à camoufler quand même des choses.
Et alors, votre père arrivait à se ravitailler en épicerie quotidienne?
Non.
Comment faisait-il alors?
Alors, non, parce que les grossistes ne recevaient plus.
Eh oui.
Ils avaient aussi leur stock, mais qui se sont vite épuisés. Puis après, oh ben non, il n'y avait plus de stock, il n'y avait plus rien. Il fallait vivre juste. Papa restituait les tickets pour justifier que sa clientèle avait besoin de telle quantité de ceci, de cela, de riz, de pâtes, des choses très élémentaires, et le grossiste livrait en conséquence.
D'accord. Ah oui, c'était comme ça.
Et oui.
Il envoyait, donnait ses tickets au grossiste, et où étaient les grossistes alors?
À Caen.
Ah oui.
D'accord. Il y en avait d'autres à Flers, et à Lisieux, mais papa c'était Dumont et Josseau, vieille maison de Caen, et puis Pupin. Dumont et Josseau, oui, et Pupin. Mais il y en avait d'autres, c'était Angot-de-Lannoy, c'était très, très prospère à cette époque-là. Il y avait tous les commerces, les commerces de proximité, donc c'était la vie du bourg, ça.
Et votre papa allait chercher à Caen où il se faisait livrer?
Alors, normal, avant la guerre, les camions venaient livrer. Oui. Mais là, après, à partir de ça, l'essence étant rare, est-ce que je pourrais parler des gazogènes aussi? Il n'y avait plus d'essence et c'était très, très compté. Donc il fallait se débrouiller.
Alors, il allait chercher, vous saviez.
Alors, quelquefois, ça venait, il y avait quand même des trains.
Ah oui.
Quelques trains, parce que la plupart étaient réquisitionnés par les troupes allemandes. Quelques trains qui déposaient ça, ce qu'on appelait la petite vitesse, et lui, il descendait à la gare, la côte du château, il descendait à la gare avec sa brouette, et il allait chercher la marchandise qu'il pouvait remonter. Mais il n'y avait plus de vin, il n'y avait plus de café, il n'y avait plus de tout ça.
Donc, il allait chercher la marchandise avec sa brouette.
Il fallait bien. Oui, remonter la côte du château avec la brouette chargée. Il a beaucoup trimé.
Donc, plus de café, plus de vin. Qu'est-ce que vous buviez alors à la place du café? Qu'est-ce que vous preniez?
Ah, alors de l'orge grillée.
D'accord.
Alors, il y avait encore un peu de café, mais si peu que les gens, ils achetaient leur petite ration de café, mais ils la gardaient pour un jour de fête, pour ceci, cela. Et l'orge grillée, chacun grillait sa petite portion d'orge dans des petits... Tu ne te rappelles pas avoir connu ça? Si tu... Oui. Tu peux parler, tu sais. Oui, ben voilà, ben justement. Et c'était un cylindre avec une manivelle. Et ça se mettait sur un foyer. Et puis ça grillait.
Oui.
Parce que si je pouvais, mais je ne peux pas évoquer ça là, mon père grillait son café. Il le recevait du Havre. Et c'était du café, oui, parce que c'était un épicier, mais comme on n'en fait plus.
Oui.
Et lui-même faisait ses mélanges de café. Et dans un brûloir, on appelait ça. Alors, préparé à l'honneur, il est à point. Mais c'était toute une science.
Oui, bien sûr.
Alors, il avait la mort dans l'âme de devoir vendre des cochonneries.
Bien sûr.
Du fromage sans ticket. C'était du fromage sans matière grasse. Et on disait que c'était fait avec de l'eau de cuisson des pâtes.
Oh là là.
Figé, vous savez, comme ça, hein, c'était infect.
Oui, ça sert.
Moi, je n'aimais pas les fromages à ce moment-là. Je me suis mise à les aimer quand il n'y en a plus. Bon, tout ça, c'est des détails, vous savez.
Oui. Et donc l'orge, bien, on se procurait l'orge.
Alors, encore dans les fermes.
Dans les fermes.
Oui. Alors la nourriture, bon, les boucheries, tout était contingenté par les tickets. Mais comme il y avait les cultivateurs et de l'abattage clandestin, et puis on était en France et en Normandie, vous pensez bien que quand même, au nez et à la barbe de l'occupant, il y avait tout un trafic de... Bon, on n'a pas vraiment chômé, moi, je crois. Mon jeune frère a peut-être chômé, parce qu'il était adolescent, et c'est vrai qu'il... Il n'y avait pas ce qu'on donne normalement aux jeunes à cet âge. Alors moi, après... Tant pis, j'enchaîne. Hein.
Oui.
Après avoir été licenciée, puisque quand le comité d'interception est rentré, comme je l'ai dit, on m'a remercié, bien qu'on m'aurait bien gardé. Alors j'ai été quelques mois au chômage. Et puis un jour, j'ai eu connaissance d'une famille de propriétaires terriens qui habitait au haut de Saint-Bénin, c'est pour ça que Saint-Bénin, je connais cette région, le haut de Saint-Bénin, des collines, c'est la Suisse normande, et on est debout sur un plateau, un très joli coin. Et ces terriens, qui avaient du bien, avaient un fils unique. Je ne sais pas trop ce qui s'était produit, je ne me souviens plus, enfin c'est un détail. Toujours est-il qu'ils cherchaient quelqu'un pour qu'il ne soit pas retardé dans sa scolarité. Il avait 6 ans.
Oui.
Bon, alors ils avaient demandé si une personne ne pouvait pas assumer. Oh, ben j'ai dit oui, moi je veux bien, après tout. Bon, plutôt ça que de rester à rien faire. Alors je suis donc allée au Haut-de-Saint-Bénin, dans cette propriété, avec des gens très bien, parce qu'on est restés amis après, avec mon unique élève.
Vous étiez préceptrice?
Alors, voilà, préceptrice entre guillemets. Bon. Et alors, comme c'était une ferme, une propriété, alors vous pensez bien, alors mes parents me disaient, cherche pas autre chose, tu es bien nourrie, tu es bien là. Voilà, j'y suis restée 3 ans. Alors, je partais le lundi matin et je redescendais à la fin de la semaine. J'y demeurais toute la semaine.
Du lundi au samedi?
Oui, oui. Alors, je m'y plaisais beaucoup. C'était pas très lucratif, hein, parce que j'étais nourrie, j'étais logée, je travaillais, bon, c'était pas éreintant, mais il était gentil, le gamin. Et, il était gentil et affectueux, spontané, je l'aimais bien. Donc, je suis restée là-bas et j'ai pas souffert, moi, de. Voilà.
Oui, dans une ferme, vous aviez
voilà.
à manger.
Je redescendais même des pommes de terre à mes parents et tout ça, je pouvais quand même, parce que, bon, voilà, pour simplifier. Donc, j'ai quand même souffert de la pénurie de bien des choses, parce qu'il n'y avait plus les chaussures, ça n'existait plus, sauf le marché noir. Alors, on avait des semelles de bois, tu as connu, des semelles articulées, c'était un peu plus souple. Seulement l'hiver dans l'eau et dans la neige, c'était pas recommandé.
Moi, ce n'était que des sabots tout en bois.
Et des sabots, il y avait.
Tout en bois.
Voilà. Mais moi, pour faire cette route, moi, j'ai toujours rêvé d'avoir des bottes, même quand j'étais à l'école, avant tout ça. Mais bon, il fallait compter, il fallait. Il y avait une paire de chaussures, ça suffisait. Bon. Et alors là, arrivé à faire la route de Saint-Bénin, avec des hivers très rigoureux, des épaisseurs de neige en sabots de bois. J'avais une boule de neige comme ça sous les sabots. Je l'ai débottée. 5 pas plus loin, c'était à recommencer. Je ne sais pas comment je ne me suis pas abîmée les jambes, hein, esquintée. Mais enfin, j'arrivais à la ferme. Une fois arrivée là-bas, je disais, ouf, ça y est, je suis arrivée. Mais ça, c'était des... on n'avait pas de vêtements, non. Puis on faisait durer les affaires. On retournait les manteaux. On rallongeait.
On transformait.
On n'avait rien. Il n'y avait plus rien dans les magasins. Parce que l'occupant, il nous a ponctionnés. Il a tout pompé. C'était le mot d'ordre.
Bien sûr.
Les usines ne travaillaient que pour eux. Il n'y avait plus rien.
Et les chaussures, je reviens aux chaussures parce que
oui.
ça m'intéresse.
Oui, oui,
est-ce que vous les faisiez vous-même? Est-ce que vous les achetiez? Est-ce qu'il y avait des... dans...
Non, alors les chaussures, on ne pouvait pas les faire soi-même. C'était quand même fabriqué. Bon. Mais ce qu'on se faisait, on faisait nos chaussons. Alors, on piquait des épaisseurs de tissu ensemble, et puis on découpait le dessus du chausson, on découpait une semelle, on avait, maman avait sa machine à coudre, heureusement, et on assemblait ça, et bon, on essayait de ne pas avoir froid aux pieds, mais il n'y avait pas de chauffage non plus. Le charbon était
rationné,
rarissime, alors on avait le bois quand même. Papa avait toujours un stock de bois qu'il achetait à des paysans, et on avait du bois, mais enfin, il fallait... On avait des chambres qui étaient glaciales, des hivers très rigoureux, les carreaux étaient givrés, et ah ben, il fallait s'accommoder de ça, parce que... Ah oui, moi, je gardais un souvenir d'hiver. L'eau, on n'avait pas le tout à l'égout, on n'avait pas l'eau au robinet, ça n'existait pas chez nous. Et l'eau gelée dans le pot à eau pour faire la toilette, il fallait d'abord casser la glace. Alors le confort... Oh, on avait des engelures. Des engelures, des crevasses, enfin tout. Bon, c'était les beautés de l'époque, hein. Mais ça, c'était même avant la guerre, hein, parce qu'on n'avait pas de confort, on n'avait rien. Hein. Alors, la guerre, évidemment, ça a pas arrangé les choses.
Bien sûr. Alors, la question que je voulais poser aussi, c'est est-ce qu'il y a eu des phénomènes de résistance?
Alors, la résistance. À ma connaissance, bon, comme c'était secret, on ne savait pas. Après, j'ai lu, grâce au livre, parce que j'en ai acheté des bouquins après tout ça, qu'il y avait, mais enfin, c'était plus dans le sud, du côté de Vassy, Montchamp, il y a eu énormément de... Il y en a eu qui ont été fusillés, qui ont été déportés, bon, beaucoup plus que chez nous. Alors, chez nous... je crois, j'ai retrouvé ça dans un qui est mort en pas en déportation, c'était un prisonnier de guerre. C'était deux régimes différents.
Oui, hein. Bien sûr.
Prisonnier de guerre, les soldats, l'armée, ils avaient quand même. Disons personnellement, la plus grosse angoisse pour mes parents, c'était donc que mon frère aîné, on ne savait pas où il était.
Oui, bien sûr.
Puisque et mon jeune frère qui grandissait. Et qui commençait à être recueillis pour... voilà. Alors, c'était...
Est-ce qu'il y a eu des jeunes de tuerie qui ont été recueillis pour le STO ou...
Je crois qu'il y en a eu, mais plus âgés que moi. Et... Oh, il y en a eu certainement, oui.
Oui, donc, la cohabitation avec les Allemands...
Voilà, une cohabitation apparemment... sans trop de... Mais ça ne s'est pas passé partout comme ça.
Oui, bien sûr.
Et puis, au fur et à mesure que les années passaient et que ça devenait plus critique pour eux, et que... Alors après, bon, la mise... Harcourt a été détruit par des bombardements de gros vols. Mais après, les SS ont achevé et incendié mille feux. Oui.
On va parler de ça.
Oui, c'est ça, voilà. Faut pas anticiper. On va parler du... Mais disons que, c'est multiple, les choses à dire. Hein.
Alors, le débarquement, donc, est-ce que vous y venez, ça va être un moment important. Voilà. Comment avez-vous su que les Alliés avaient débarqué? Est-ce que vous l'avez entendu? Qu'on vous l'a dit?
Oui, on ne pouvait pas ne pas l'entendre. Ah, oui. Parce que je travaillais donc à la perception et je logeais chez mes parents. Oui. Et maman qui avait le pressentiment depuis longtemps de ça, dans la nuit, un vacarme épouvantable, des lueurs partout, tout était éclairé, les avions de tous les côtés. On disait, oh ça y est, maman dit, ça y est, c'est le débarquement. Papa lui dit, mais non, écoute. Alors maman s'est levée, elle s'est chaussée, elle a pris la valise qui était préparée, des réflexes comme ça, et puis on a fini la nuit. Alors moi j'étais à Saint-Bénin, mais je sais comment ça s'est passé, parce que bon, chacun en a vécu. Et alors, à partir de ça, bon, ma pauvre mère était terrorisée par les bombes.
Au moment du débarquement, les Allemands qui étaient à Thurie.
Oui, alors les Allemands qui étaient à Thurie, c'était l'affolement.
Oui.
Ça a galopé dans tous les sens, ils s'interpellaient parce qu'ils savaient qu'ils logeaient. Et puis les officiers, les ordres, tout ça, ça a été l'affolement. Oui. Ils se sont dit, ça y est, cette fois-ci. Bon, là, ils ont compris que c'était le début de la fin pour eux. Hein. Ça a duré encore jusqu'en 1945, mais enfin, Ça commençait. Donc, oui, ça a été... Alors, nous, on se réjouissait, malgré l'angoisse qu'on éprouvait.
Oui.
On se réjouissait, dit, ça y est. Oui. Ah oui, il y a une chose que j'ai oublié de dire, excusez-moi, mais c'est ça, ça va être confus. Parmi tout ce qui était imposé, le couvre-feu le soir, il ne fallait pas être dans les rues à partir de 18, 19 heures, ouais. Quelque chose comme ça. Et il fallait obstruer toutes les fenêtres. Alors certains, dans les usines par exemple, dans les parties, les bureaux, les vitres étaient peintes en bleu. Le, comme ça, pour que les lumières ne filtrent pas. Parce qu'une ville, un bourg qui est éclairé, ça se voit d'en haut. Alors, pour les bombardements, donc, il fallait comme eux-mêmes camper dans partout. Ils avaient peur, parce que leur matériel était partout. Et donc, surtout... Et alors, ils interpellaient les gens, mais il ne fallait pas rire avec ça. Parce que...
Oui, c'était sérieux.
Il
ne
fallait pas rire avec ça. Ils interpellaient, lumière, oui. Alors, il y avait ça. Il y avait aussi des coupures de courant. Parce que même ils pompaient dur pour toute leur... Alors, il y avait des jours, pas des jours, mais des heures dans la journée, il n'y avait plus de courant. Alors, fallait calculer avec ça.
Donc, ça c'est intéressant, c'est des détails importants.
Mais oui, hein, mais
on voit que malheureusement, c'était votre quotidien. Quoi,
ah, c'était ça. Notre quotidien.
Bien sûr. Oui.
Alors, mais comme je dis, moi j'ai pas l'impression d'avoir souffert vraiment de ça. Après, bien sûr, on a vécu des moments très durs. Mais là, bon.
Oui, bon, on se soumettait à ces règles.
Oui, et puis on ne peut pas dire qu'ils étaient à ce moment-là, au début, arrogants ni rien. Oui. Il y avait des officiers qui étaient arrogants, mais il ne fallait pas les braver.
Oui.
Il ne fallait pas. Moi, je passais comme ça, je regardais droit devant moi.
Bien sûr. Est-ce que, donc, quand les Allemands se sont affolés, est-ce que les troupes alliées sont arrivées tout de suite ?
Oh, alors là, c'est très compliqué parce qu'on les disait un peu partout. Et puis ça, c'est. Vous savez, alors là, il faudrait pour tout le monde se reporter au récit de l'avancée qui s'est faite. Alors, les pays côtiers, il y a des pays côtiers qui sont passés à travers, disons.
Oui.
Mais c'est qu'après, la résistance, les Allemands, ils sont accrochés.
Oui.
Quand du reste, combien de temps ça a duré, les combats,
route,
les combats, hein.
Oui.
Harcourt aussi. Bon, ils avançaient, mais difficilement.
Est-ce que vous avez eu aussi, avant peut-être les alliés,
pour étayer ce que je dis, parce que c'est trop, hein. Il faudrait se reporter, parce que tout se recoupe, à des livres qui donnent les dates.
Bien sûr,
vous savez,
bien sûr.
Le camp, par exemple. Entre, je crois, la rive gauche, donc nous, et la rive droite, je sais pas si c'est 8 jours.
Oui, mais je crois que la rive gauche...
Parce que les combats étaient
acharnés. Et les forces étaient assez équilibrées. Hein,
et puis eux, ils ne voulaient pas décrocher. Ils savaient que c'était le début de la débâcle pour eux. Alors, ils s'accrochaient. Et il y avait des SS à ce moment-là. Alors, c'était les fanatiques, ça.
Vous aviez autre chose, c'est ce qu'on a connu. Oui. Mais alors... Avant l'arrivée des Alliés, vous avez peut-être eu des réfugiés.
Est-ce qu'il y a eu Oui, si je l'avais dit au début, oui, il y avait des réfugiés du nord et de l'est.
Mais est-ce que, par exemple, des réfugiés de Caen sont venus ? Est-ce qu'il y a eu, parce que les gens de Caen ont fui,
c'est une bonne question. Alors, il y a eu deux choses. Il y avait des gens qui ne voulaient pas aller trop loin, parce que sachant qu'une maison vide était une maison pillée. Et donc, ils ne voulaient pas aller trop loin. Il y en a qui se sont repliés vers le sud, mais en restant dans le Calvados ou dans l'Orne, aux confins. Et là, certains se sont fait massacrer dans ce qu'on a appelé la poche de falaise.
Ouais,
enfin, les Allemands, bon, se sont fait massacrer. La rivière, la Dive, qui a tourné sur Dive, dans le sud, elle n'est pas encore très, très large, mais enfin, c'est une rivière. Eh bien, la Belloni raconte que à un moment donné, j'ai un petit texte aussi là qui en fait foi. À un moment donné, elle était comblée par les cadavres de chevaux, des cadavres d'hommes, des canons, tout ça. C'était un bourbier de de cadavres.
Et de matériel avec.
Ouais. Comment s'appelait l'abbé? L'abbé
Launay.
Ah oui,
je crois. Oui, c'est ça. Ben oui, tiens, heureusement que j'avais des documents quand même, parce que ça m'a tellement passionné tout ça. Voilà, des extraits de « Dans la tourmente » de l'abbé Marcel Launay, curé de Tournay-sur-Dives. Et il avait, alors j'ai pu, de ce petit livre, je n'ai pu prendre que quelques photocopies de pages. Qui,
bien voilà. Sûr que vous avez fait.
Il mettait en exergue ce champ de bataille, et sans conteste, l'un des plus grands champs de tuerie qu'aucun secteur de la guerre eût jamais connu. Je fus conduit d'un bout à l'autre, c'est pas l'abbé Launay, je vais dire après qu'est-ce qui a dit ça. Je fus conduit d'un bout à l'autre, à pied, pour voir des scènes que seul Dante aurait pu décrire. Il était possible de marcher pendant des centaines de mètres en ne marchant sur rien d'autre que sur de la chair morte et pourrissante. L'issue de la bataille de France s'est jouée parmi les vergers et les haies de cette région de Normandie. Et qui a dit ça? Parole du général Eisenhower, commandant en chef des armées alliées, quand il visita le 23 août. Mm-hmm. Ah oui, depuis le 6 juin.
Oui, vous voyez.
23 août, et c'était pas loin.
Oui.
Le champ de bataille de Tournay, devenu un incroyable charnier. Et tout son livre décrit des choses comme ça. Oui. Si bien que cette zone-là, elle avait été, après, quand les troupes furent parties, elle avait été cernée par des, pas des rubans, mais enfin, hein, et avec des écriteaux, interdiction, oui. Par crainte du choléra. Les mouches.
Contamination. Oui.
C'était oui. Putréfaction. Oui. Moi, j'ai pas connu ça.
Ah bon, vous avez, à part le jury, ça a été moins.
Oui,
moins
ça, oui. Oui, oui, on n'a pas connu ce genre de choses. Il faut dire, donc, que l'usine électrique, le pont, la gare, c'était des points quand même stratégiques.
Bon.
Et alors, donc, on était. Alors, à partir du débarquement. C'était surtout les Anglais volaient en piqué pour essayer d'atteindre précisément ces points-là. Ils ont raté le pont parce qu'il y avait un appel d'air et il paraît que ça faisait dévier les bombes. Et moi j'avais des amis d'école qui habitaient à proximité et qui frôlaient la mort parce que ça tombait là
sur
où ils habitaient. Bon, c'est horrible. Aussi beaucoup à dire.
Bien sûr.
On était restés très unis, on en a souvent parlé entre nous. Bon. Et alors donc ils n'ont jamais pu atteindre le pont. La gare. Non, elle a peut-être souffert, je ne me rappelle plus. Alors donc, nous, au bourg, là, sur le plateau, on entendait, mais on était habitués. D'abord, ce n'était pas les gros bombardiers qui faisaient ce bruit sourd, qui étaient les escadrilles de 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12. Alors, Tandis que là, c'était des... Alors, on les entendait venir, ils commençaient à piquer, mettons, au-dessus de nos maisons. Et puis on savait que c'était pour le Saint-Bénin. Oui. Ben on ne branchait pas. On se disait, oh là là, pourvu que. Bon, mais c'est tout. Alors pendant tout le mois de juin, ça a été grosso modo comme ça. Une chose qui m'était restée. Alors je ne sais plus, il faudrait que je retrouve la date. Vers le 11, 12, 13 juin. Un midi, c'était un dimanche. Le pays s'est obscurci. Et il faisait beau, il faisait un temps superbe. Le mois de juin avait été superbe. Obscurci, des nuages noirs. Et on a su que c'était les docks du Havre qui flambaient.
De si loin.
Eh oui. Eh oui. Alors vous pensez, les gazomètres, tout.
Bien sûr.
Parce que le Havre.
Bien entendu. Sont,
Alors moi, je vois. Ça faisait peur quand même. Alors, impressionnant, quoi.
Donc, et alors, vous disiez qu'après, Tuerie a été détruite.
Donc, voilà, on a connu donc cette période qu'on vivait. Alors, comme c'était quand même pas très. Il y avait, les jeunes avaient. La municipalité avait conseillé de faire des abris. Alors, au sud du pays, il y avait une zone, des jardins. Bon, ben, les jeunes avaient creusé des tranchées bien faites, selon ce qu'on leur avait expliqué. Mon jeune frère y avait participé. Et Alors papa voulait rester dans sa maison parce qu'il disait une maison abandonnée, maison pillée. On avait quand même nos affaires, nos vêtements. Oui. Bon, mais il nous disait, mais vous les jeunes, mon jeune frère et moi, restez pas là, parce que bon. Alors le soir, on partait et on allait coucher dans les tranchées. Voilà.
Bon. Et la population couchait dans ces tranchées aussi.
Oh oui. Alors il y en avait qui avaient des jardins, ils avaient fait des tranchées dans leurs jardins. D'autres c'était dans leurs caves. Par exemple, une famille qui avait une belle maison de maître, qui avait des grandes caves, et qui avait des petits-enfants, qui avaient des petites filles, des enfants qui habitaient à Paris. Il leur avait dit, écoutez, restez pas à Paris, parce que la capitale, on pouvait penser.
Oui.
Venez donc là, comme ça. Des familles entières ont été détruites. Oui. Ont été tuées comme ça. Parce que. Alors donc. Oui, alors nous allions donc le soir, et dans la journée, alors c'est compliqué parce que à ce moment-là, maman n'était plus à la maison. Parce que maman était tellement terrorisée, elle gardait tout pour elle, mais elle allait affoler.
Oui.
Alors papa dit, il faut qu'on trouve une solution. Et comme son père, oui, il ne faut pas marquer tout parce que moi j'avais en sortir, comme son père était un ancien instituteur à Grimbault, on connaissait ses anciens élèves, l'adoraient. Et il y avait un de ses anciens élèves qui était du côté de Curcy, mais dans un vallon, un moulin. Alors il dit, monsieur Lédois, il ne faut pas rester là. Venez chez moi, vous verrez. Vous savez, ils ne viendront pas. Bon. Et, enfin, ils ne viendront pas, vous serez tranquille. Enfin, bon. Et alors, on avait pensé que. Alors, maman, avec mon grand-père et ma grand-mère, qui étaient âgés déjà, mon grand-père était presque aveugle de la cataracte, ils sont allés là-bas. Alors, papa nous dit, mais et vous, vous feriez peut-être bien d'y aller aussi, Jean-Pierre et moi. Alors, on ne savait pas trop. Alors, il était venu les chercher avec une charrette, et on avait pu charger une grosse malle, des draps, un matelas, enfin, des choses comme ça. Alors, on avait suivi le mouvement, on avait été là-bas, et quand on a vu le fourbi, des matelas partout, d'autres qui dormaient dans la paille, tout ça, et puis bon, ils étaient braves ces gens-là, mais enfin, Pierre et moi, on se regarde, on dit, qu'est-ce qu'on fait? On va rester là? On a décidé de ne pas rester, nous. Alors on est revenu, mais on se disait, mais papa va peut-être... Alors, comme le magasin était fermé, on est arrivé, on a cogné dans la porte, puis on se demandait comment.
Hein. Vous
avez reçu. Ben oui, quand on est jeune, bon. Alors, c'est vous? Alors, on dit oui, parce qu'on n'a pas envie de rester. Mes enfants, c'est vous. Bon, adieu va, parce que dans ces moments-là, qui fait bien, qui fait mal.
Ouais.
Alors, on est passé par-dessous de volets à quatre pattes, et puis bon. Et puis alors, après, alors on a vécu comme ça, plusieurs jours, bon, quelques semaines. Et puis, alors, un soir, le 30 juin, il y a le boulevard du 30 juin, parce que c'est la date fatidique, le 30 juin, alors j'étais à la maison avec papa, et puis je me prêtais à préparer la soupe. Faire de la soupe, puis il fallait bien vivre, manger.
Bien sûr.
Et puis alors on entend ce grondement, comme on n'avait jamais entendu. Et puis alors le fracas. Et alors là, la maison s'est trouvée, le toit crevé, parce qu'on était à proximité, oui, rue du Château. Et bon, grosso modo, hein, parce que. L'emplacement du château et le parc.
Oui.
Bon, il faudrait prendre une vraie carte pour s'y reconnaître, hein, parce que. Parc. Le parc du château, il affleurait à notre maison.
Ah oui.
Oui. Et alors, c'était des arbres qui avaient été fracassés, soufflés. Je me suis dit, bon, ben non, hein.
Oui.
Et donc, notre maison, qui se trouvait, bon, s'est trouvée. Alors. Mais moi qui n'avais pas l'expérience de la guerre, bon, on ne savait pas trop. Et puis, un peu bêtement. Donc, je dis, bon, il faut quand même, qu'est-ce qu'on fait? Papa me dit, va-t'en vite, bon, à la tranchée. Il fallait que je traverse le bourg. Il dit, moi, je reste là. Mais lui, il allait dormir dans ce qu'on appelait un souterrain, les souterrains du château, pas très loin de la maison, parce qu'il voulait garder un œil à proximité. Bon, mais il dit, va-t'en vite, parce qu'ils vont revenir. Alors là, j'ai traversé le pays qui était déjà... Je ne sais pas ce qui était détruit à ce moment-là. Mais moi, je n'ai vu que plus de soleil, plus rien.
Et... Parce que c'était dans la journée, là, le bombardement. Il avait lieu
alors,
dans
c'était
la journée,
dans la soirée. Dans la soirée. Mais, en juin, mais quand c'était fait... en plein été, voilà. C'était grand jour.
Oui, 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 oui.
Et je me suis dit, en courant, j'ai dit, il n'y a plus de clocher. Or, le clocher n'a pas été abattu. Oui. Mais c'était les retombées de terre. Oui. Alors, on ne voyait plus rien. Et puis alors, bon, je ne décris pas, j'arrive vite aux tranchées. Alors, bon, chacun se congratule un peu. Oh, vite, 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 rentrer. On m'a bousculé dans l'entrée. Les voilà qui reviennent. Alors, ils sont revenus. Et tout est tombé sur le centre d'Harcourt et sur la zone où étaient les tranchées. Alors, il y a eu des familles entières, des familles, les petits de Blaise, toute une famille qui est restée, on n'a même pas pu la dégager dans l'immédiat de la tranchée.
Les petits, vous dites, les
de Blaise.
De Blaise,
oui. De Blaise, il y avait 4-5 enfants, je crois. Et alors, moi, étant arrivée la dernière, on m'a vite, vite rentrée, et puis ça s'est abattu sur nous. Ça, bon, on n'a pas trop su ce qui nous arrivait. Il y en a des dames dans le fond qui étaient complètement submergées, qu'on a dégagées, elles étaient déjà... Et puis moi, eh ben, j'ai été renversée, j'ai été recouverte de... Mais jusque-là, j'ai été renversée par le souffle, par la terre, par tout ça, jusque-là, bon. Alors après, le maire, M. Gauthier, a été magnifique.
Monsieur Gauthier, oui.
Et puis le docteur Gourdin. Enfin, tout le monde a été... Oh, je ne peux pas entrer dans les détails, c'est moins simple que ça. Mais enfin, bon. Alors, parce qu'il y avait des groupes de secouristes qui avaient été quand même organisés, il fallait bien, hein, on savait bien que ça... Alors, qui venaient pour voir qui avait besoin de secours. Alors, moi, je me rappelle simplement d'une chose. Alors, il y avait des pelles prévues pour dégager. Donc, les jeunes se sont vite employés pour déblayer... dégager les personnes qui étaient au fond et qui allaient étouffer. Elles étaient...
Recouvertes de terre.
Oui. Et moi, j'étais à la sortie puisque je venais juste d'arriver. J'étais au seuil, quoi. Oui. Alors, on me dit... Alors, ils sont venus pour essayer de me tirer par les épaules comme on ferait dans le sable. Oui. De dire, bon, allez. Mais s'ils n'en tiraient pas, je peux pas. Et je pensais que j'avais les jambes brisées. Oui. Hein. J'avais pas mal, mais je disais... Et finalement, eh ben, on m'a dégagé, mais je n'avais rien. Et il y avait des madriers qui sont tombés comme ça et qui m'ont protégé. Parce qu'au lieu de m'écraser, moi, voilà. Alors, on m'a dégagé, ben, je suis ressortie indemne. Nous étions des sinistrés. Donc, il n'était pas question de revenir à la maison. On y est revenu après, ça, c'est d'autres péripéties. Mais dans l'immédiat, vous partez vers le sud. Alors on est allé dans le pays juste limitrophe, Esson.
Oui.
Et les braves gens d'Esson nous ont accueillis à bras ouverts et on a vécu quelques semaines à Esson. Alors là, on était 10, 12, 15. Alors il fallait quand même faire de la cuisine. Il y avait de la farine, il y avait, moi je me souviens avoir fait, comme jamais je n'avais fait avant, auparavant, des galettes dans l'âtre, dans une grande...
Galetière.
On se relayait.
Une galetière.
Oui, oui. Et on se relayait parce qu'il y avait des tablés de 10, 12, 15. Ouais. Et des grands jeunes gens, des hommes. Et il fallait... Alors, bon, on faisait ce qu'on pouvait. Et
votre père vous avait rejoint
ou... Alors oui, papa nous avait rejoint. Oui.
Et
papa et mon jeune frère.
Et votre maman est restée toujours...
Alors, elle était restée là-bas. Parce que les combats n'étaient pas encore chez nous. Mais moi, avec ma petite jugeote, quand même, je me disais, oui, mais brave Botta, c'était pas son nom, mais enfin, c'était un surnom que mon grand-père lui avait donné. Il est bien bon, ancien artilleur et tout, mais la guerre va arriver chez nous, les combats, bon, il ne va pas être plus malin que d'autres.
Oui.
Et alors eux, ils ont donc été évacués de force, oui. Et ils ont échoué pas loin de Falaise.
Ah, oh là. Et ah, votre oui. maman était avec eux?
Eh bien, elle était avec eux. Et on n'a rien su de tout ça, on l'a su qu'après. Parce que pas de nouvelles, rien. Nous, on nous a... Alors, à partir, elles sont, mais quand à mesure que les combats avançaient, refoulés. Alors, on a traversé l'Orne, et puis on a descendu, et ensuite, papa avait des problèmes déjà de la maladie qui devait l'emporter, cancer de la prostate. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Où s'arrêter? Si bien que on s'est trouvé refoulé jusqu'auprès de Limoges, alors que bien des gens se sont arrêtés beaucoup plus près. Alors Pierre était avec son copain Ferdinand Bouvet, ils étaient furieux qu'on aille chez moi, mais je lui dis, écoute Pierre, on est des réfugiés, on a droit à une petite comment ça s'appelait, allocation de réfugiés. Je dis, si on reste là et si on n'a plus de... Le oui. peu, ça nous permettra de vivre. De, oui. hein.
Et comment touchez-vous votre allocation là?
Je ne me rappelle plus, c'est papa qui s'occupait de oui. ça. Oui. Dans les perceptions, dans les mairies. Oui. Dans les
là où mairies. Vous passiez, on vous donnait oui. votre
oui.
allocation.
Ça suivait. Je, oui. Là, moi, j'avoue que... Bon. Et alors donc, on s'est trouvé réfugié jusque là-bas. Alors, je ne vais pas m'étendre sur le... ce qui s'est passé là-bas, comment... Simplement que c'était auprès de Radour-sur-Glane. Alors Pierre y est allé le voir, mais moi j'ai pas voulu, ça vient de se produire. Oh, j'ai dit non.
Votre frère est allé voir.
Oui, ben oui.
Est-ce qu'il
avec
a été...
Avec son camarade, là. Oui. Ouais.
Est-ce qu'il a été impressionné?
Ah oui. Non, j'ai pas voulu. Puis on venait de vivre déjà des heures tellement... Oh, j'ai dit non, écoute. Ouais. Bon.
Ah oui, dites donc.
Oui, c'était tout proche d'où on était. Et alors, sans nouvelles. Alors, on est resté là-bas, on a vivoté. Enfin, les gens ont fait ce qu'ils ont pu, mais on n'avait rien. Hein. Pas de drap, rien. Alors, il a fallu vivre, bon. Et on est resté là-bas jusqu'au mois de novembre.
Novembre 44.
Oui, alors, la descente jusque là-bas, ça s'est fait beaucoup à pied, oui. parce que vous avez peut-être vu des photos, des images d'Exode, oui. c'est toujours...
À pied ou à vélo.
À pied, à vélo, avec des poussettes, oui. avec un... Hein. Oui. Bon, alors nous, on a eu des charrettes, alors on chargeait les charrettes, mais le plus souvent, on suivait à pied, oui. parce que... Ou là, les personnes âgées,
oui, bien sûr,
sur
oui.
les charrettes, et puis on suivait à pied, bon... Et parce que la remontée, ça a été autre chose. Et alors, on est resté là-bas donc jusqu'au mois de novembre. Et puis là, ben, alors à partir de novembre, voyons, l'armistice a été signé en mai, donc les combats étaient passés.
Oui.
Voilà. Alors, les ordres étaient, ben, il fallait bien que chacun rentre chez soi. C'était normal. Alors, la remontée a été organisée, mais à travers une France dévastée.
Ça a dû vous laisser des impressions.
Ah ben, oui, parce qu'on a vécu des minutes. Alors, par exemple, pour ne citer qu'un exemple, il n'y avait plus qu'un pont sur la Loire. Un seul pont. Alors, on nous disait... vous prenez tout ce que vous pouvez porter, les quelques valises qui nous avaient suivies, où on avait nos effets, puis je ne sais pas, enfin bon, tout ce qu'on pouvait. Vous vous chargez, parce que vous ne repassez pas, parce qu'il y en a d'autres derrière, il faut que tout le monde remonte. Et alors sur l'unique pont, alors j'aime mieux vous dire, bon, on est remonté comme ça, et à mesure qu'on remontait vers les lieux des combats, les ponts étaient coupés. Alors, on est remonté.
À pied aussi.
Oui, mais les ponts étaient coupés.
Oui, d'accord, mais à pied, de par
exemple. Bon, alors, justement, j'y viens. Alors, au début, dans le centre, les FFI, les forces françaises de l'intérieur, hein, il y avait des camions, j'avais tout ça. Alors là, ils ont contribué à aider à remonter. Alors on était entassés dans les camions, bon. Alors on avait ça. D'autres fois, on a retrouvé des charrettes. D'autres fois, c'était à pied. Et puis, alors, à partir de... On s'est retrouvé là, orienté sur Paris, parce que Paris, c'était un lieu de répartition,
oui.
Parce qu'il y en avait de provenance, hein, de tous les côtés. Alors à Paris, on a vécu, oh, j'en aurais long à dire là-dessus, mais je peux pas.
Allez-y,
je peux pas. Non, mais parce que on était donc à Paris. Alors, je n'ai jamais tant souhaité être riche que là, parce qu'on n'avait pas, on n'avait plus de moyens, on n'avait rien.
Ah oui, bien sûr.
On avait nos petites économies, hein. Et alors on était logé un refuge, je sais plus dans quel arrondissement c'était, le refuge Benoît Malon. C'était un refuge autrefois pour les sans logis, quoi, alors c'était mis au service des, bon, alors on logeait, alors moi j'étais séparée, papa et Pierre,
ah oui,
hein, et
bien
puis
sûr,
moi,
t'es femme, hein.
Alors je vais vous raconter une anecdote qui, c'est stupide, mais je dis quand on est jeune, on est naïf. On nous avait montré l'endroit, il y avait des paillasses, comme ça simplement, des petits matelas, comme ça. Alors moi, bêtement, naïvement, j'avais repéré une paillasse dans un angle, et j'avais mis, ça franchement, c'est stupide, hein, j'avais mis une pancarte réservée. Vous savez, quand on croit au Père Noël. Bon, c'est bien que le soir, quand je suis rentrée, d'abord il y avait déjà beaucoup de... Hein,
oui.
J'ai pris la place que j'ai pu rester.
Bon.
Et pour les repas, alors j'ai une image. Alors on se retrouvait là au moment des repas. Alors les repas, évidemment, c'était. Alors je me souviens simplement d'une chose. On était assis, il y avait des bancs autour de grandes, grandes tables. Et on nous envoyait, il fallait faire vite, puis il fallait des gamelles. Qui venaient d'être assis, qui avaient encore de l'eau, c'était des gamelles de l'armée.
Mmh.
On nous envoyait ça, et puis on nous mettait des nouilles dedans, des nouilles à peine égouttées. Bon, on n'aurait pas de faim. Mais je me disais, mon Dieu, parce qu'il y avait des gens qui pouvaient se loger dans. Il y avait des hôtels à Paris, de tout niveau, de tout calibre, de tout style. Enfin, hein, je souhaitais, mais on n'avait plus rien, alors. Alors bon, et dans la journée, il n'empêche, eh ben, on a visité des choses à Paris. Et c'est comme ça que j'ai découvert Paris.
Vous avez fait du tourisme.
Et on a fait du tourisme. On a fait du tourisme. Oui, oui, oui. Ah oui, oui, oui. Et ça, dans la journée, ça passait. On était tous les trois ensemble.
Oui, bien sûr.
Même si on était angoissés, on ne savait pas où. Bon, mais on se disait, il faut vivre au jour le jour.
Oui.
Il faut prendre ce qui se présente. Eh bien, on avait été au Louvre, on avait été. Puis je crois qu'il y avait. On devait avoir droit des tickets quand même, des choses. On avait égard quand même à nous. Alors, et puis rien que les statues, les extérieurs, la place de la Concorde, tout ça, moi je trouvais que c'était merveilleux.
Mais alors, quand vous dites ça, il n'y avait plus d'Allemands, il n'y avait pas de risque.
Ah non, il n'y en avait plus là.
Il n'y en avait plus.
Ah non, 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 non. Non, non.
Oui,
les combats, c'était en novembre, alors ça se passait. Ben, mon frère a fait la campagne d'Alsace.
Oui,
donc le front était
sur l'Est.
Donc vous étiez encore en France, mais disons, oui.
Donc vous pouviez profiter de Paris. Et comment se fait-il que vous y soyez resté? Il fallait attendre un peu.
Il fallait attendre. Alors, à Paris, alors là, on s'est trouvé, je ne sais plus par quel moyen, dirigé sur la gare de Mantes. Bon, vers l'ouest.
Mantes-la-Jolie.
Alors, Mantes-la-Jolie. Alors là, moi, j'étais malade, j'avais un rhume, c'était une grippe, je ne sais pas, j'avais la tête. Hein. Et la gare de Mantes n'avait plus une fenêtre. Et on était entassés, chacun avec ses ballots. Et moi, je me rappelle, je ne tenais pas debout, j'étais complètement assommée, abrutie, assise sur ma valise, et je tombais de sommeil. Bon, et il fallait attendre qu'un train vienne nous prendre. Alors des trains, les vieux trains d'autrefois qu'ils avaient sortis des dépôts, qui étaient les banquettes de bois, enfin les vieux trains qui qui étaient vraiment des pièces de musée, quoi.
Ils servaient encore à cette époque-là. Les banquettes de bois servaient encore à cette époque-là.
Oui, il y en avait encore, mais enfin, il y avait quand même... Moi, je m'en rappelle, les machines et tout ça, c'était plus confortable. Tandis que ces vieux trains-là, c'était... Ben, ils avaient ratissé tout ce qu'il y avait dans les dépôts.
C'est hein. Ce qui restait.
Et ce qui restait, parce que les Allemands, c'était servi.
Et puis, il y avait eu certainement des
vieux même pour refouler les intrants.
Les mitraillages aussi, pour refouler les trains. Les mitraillages ont détruit les trains.
Oui, bien sûr. Mais oui. Et alors, on est parti donc de cette gare pour remonter. Je crois que peut-être, je ne sais plus si c'est direct quand, mais il y avait des endroits où il n'y avait plus de pont. Mais comme il fallait quand même que la circulation se... Alors, on nous avait expliqué que, je ne sais pas comment les appeler, c'était les gens de la... s'appelaient peut-être pas la SNCF à ce moment-là, mais enfin, des gares, mais les... Je veux dire, les ceux des voies, quoi. Je sais pas par quel... En tout cas, on nous avait expliqué que la voie a été reconstituée par des paquets de rails ligaturés et sur lesquels le rail était mis.
Oui. Dans le vide.
Et le train passait par là. Alors ça roulait à... au pas. On aurait pu suivre. Alors j'aime mieux vous dire que c'était le silence complet.
J'imagine. Oula.
Ah, c'était le silence, hein, parce que on disait c'est la vie ou la mort, quoi. Ah ben oui. Mais c'était bien fait, je crois, parce que on a passé. Et combien d'autres avant nous et combien d'autres après nous. Alors on a connu plusieurs traversées comme ça. Il fallait bien franchir les fleuves, les rivières. Il n'y avait plus de pont, il n'y avait plus rien. Parce que c'était stratégique, les ponts. C'était ça qui était visé par
les bombardements. Bien sûr, la preuve à Thury-Harcourt.
Et alors, on est donc arrivé, par tous ces moyens, à Caen. Alors l'arrivée à Caen, Caen dévastée. Une horreur.
Plus rien. Plus...
Alors on se trouve, par quel moyen, déposé place Saint-Pierre, ce qui était la place Saint-Pierre. Et là, qu'est-ce qu'on trouve? Un de nos voisins, qui était bijoutier au carrefour de la rue du Château, a les retrouvailles, évidemment. Monsieur Gosselin, alors bien sûr, c'était toute une... Et qui nous dit, eh bien, vous avez appris pour le père Le-Édouard, le grand-père. Non. On lui dit, non, parce que il est décédé. Alors mon grand-père était décédé d'une atteinte cérébrale, quoi. Il a dû faire un AVC, ce qu'on appelle un AVC maintenant. Il avait été trop ébranlé par tout ça, il était décédé. Et puis c'est comme ça qu'on a pu. Alors je ne sais plus comment on est revenu de Caen à Thury-Harcourt. Ça ne m'est pas resté. Je ne me rappelle plus du tout ça. Et puis après, on a retrouvé la famille.
Et bien maman, vous l'avez retrouvée.
Alors qui elle nous a raconté son odyssée, évidemment, en plein dans les combats, mélangée aux soldats allemands, aux soldats anglais, blessés, la Croix-Rouge qui soignait tout le monde, maman qui avait une énorme plaie au talon qui a été soignée par les Anglais. C'était le début de la pénicilline, et c'est ça qui l'a sauvée, parce qu'elle aurait été prise de gangrène.
Il n'y avait que pour l'armée, la pénicilline.
Oui, mais comme c'était l'armée, justement,
uniquement
c'est ça.
Pour l'armée, oui. Les autres n'avaient pas droit.
Et ce sont les Anglais qui l'ont soigné, alors ils ont dû lui déverser de la poudre, et ils l'ont... Autrement, je crois que...
Mais alors, la plaie, elle l'a eu, c'était une blessure ou bien des ennuis?
Oh, je pense que c'était à force de marcher, bien sûr, mal chaussé, et puis l'émotion, tout ça. Oui. Hein. Parce qu'il faut dire, mais ça c'est un autre chapitre, il faut dire que... Ça nous avait, comme on dit, tourné le sang. Et moi, un an après, il ne faut pas marquer ces choses-là, hein. Je vous l'ai dit, c'est un an après, j'ai fait une révolution du sang. Alors j'ai eu une poussée de furon que je n'avais jamais... Si, j'avais fait une fois un méchant furon au cou, pour une raison précise. Mais j'ai eu les fesses tapissées de furon. Et puis j'ai perdu des ongles, des abcès. C'est... Et le médecin m'avait dit, ça c'est la réaction, un an après, à la date. Oui. Date pour date. Hein.
Date anniversaire.
Oui, juin, oui. Au mois de juin. Oui. J'ai perdu des ongles, oui, des abcès. Parce qu'on avait été, quand
secoué,
même
hein,
secoué, oui. Oui. Mais on n'était pas des plus malheureux. Parce que il y a des familles qui ont perdu des leurs, des familles entières qui ont été. Oui. Hein. Nous, on s'est retrouvés tous,
sauf
le grand-père.
Oui.
Bon. Sauf, alors, un cousin germain, et que nous aimions beaucoup, qui lui était dans la marine, mais je ne vais pas m'attarder sur ça parce que c'est quelque chose qui n'a jamais été géré, qui était dans la marine, l'école navale de Brest, et Mercel Kébir, je ne sais pas si c'est bon,
oui.
Voilà. Et il était sur le Bretagne, et ils ont été torpillés, ça a été un enfer là-bas. Et il y est resté. Alors donc, mon oncle et ma tante ont été beaucoup plus éprouvés que
bien
nous.
Bien sûr, bien sûr.
Ils ont gardé leur maison, eux. Oui. Attends, là, elle existe encore, j'ai encore ma cousine, qui est du même âge que moi, mais... Ils ont perdu leur fils, ils en sont morts.
Oui.
Le chagrin.
Oui, le chagrin.
Dans des conditions atroces comme ça.
Oui. Bien sûr.
Par les Anglais.
Oui.
L'amirauté anglaise n'était pas d'accord.
Oui.
J'ai un livre, un énorme livre qui raconte, heure par heure, minute par minute, les dépêches. Ils ne voulaient pas. Ils disaient, c'est pas possible, on ne peut pas tirer sur nos alliés.
Oui.
Et Churchill a voulu, pour faire un éclat, pour engager les Américains à entrer dans le truc,
dans le conflit.
Il faut détruire la flotte française.
Mais regardez ce qui s'est passé par chez nous, les bombardements, c'est les,
ah ben bien sûr.
C'est les alliés
on
aussi.
On a détruit, oui. Le principe, c'était d'abattre les maisons sur les routes, sur les rues, les artères, les avenues,
les communications,
les avenues, voilà tout, pour... retarder l'arrivée de... C'était complètement stupide. Ils ont foncé un char dans le trou de bombe et ils passaient par-dessus. Bon, schématiquement, c'était ça.
Oui, mais ils voulaient empêcher les Allemands
Le
plus recevoir
possible.
Des secours,
oui,
des renforts.
Oui. C'est inhumain, la guerre.
Bien sûr.
Inhumain.
Et les populations civiles ont été les victimes.
Ah oui.
Et votre maison a été...
Alors la maison, elle a subi le sort du château, c'est-à-dire que les derniers occupants du pays, qui étaient des SS, qui étaient
hargneux,
hein, c'est eux qui ont mis le feu au château, et ils ont incendié tout ce qui était encore, pas tout, parce qu'ils n'ont pas pu, mais enfin le plus possible, de rage, en quittant un pays, ben, ils auraient voulu que ce ne soit vraiment que ruine. Et notre maison qui était placée là, à proximité du château, et puis beaucoup d'autres, quoi. Tout le centre parcours a été détruit. Alors, autant par les bombes, et autant par eux.
Oui. En plus, incendie, ils ont fait ça.
Alors, il y a une chose que j'ai omis de dire, mais c'est quand même, ça fait partie. Lorsqu'on était réfugié à Esson, ça se touche.
Oui.
La maison était encore debout, bien qu'éventrée, et on avait nos affaires. Alors, mon frère et moi, eh bien, on y revenait avec une brouette pour essayer de sauver des choses. Et alors, une fois, on a fait plusieurs voyages comme ça, alors parmi les trous de bombes, c'était pas... Et à un moment donné, Pierre me dit, « Oh là, fais attention, regarde cette chose-là. » Un engin, ça serait bien une mine. Surtout, faut pas un caillou qui irait là, bon, elle explose. Alors, il fallait vraiment, avec la brouette, penser. Bon. Et une fois, alors j'étais montée au champ pour essayer de redescendre des effets. Je descends une brassière d'affaires. Je la pose sur la table de la... Alors, c'était éventré, la façade. Hein, je pose mon paquet et puis je remonte pour... Hein, quand je redescends, il n'y avait plus rien. Ah ben, ça avait été volé. Ah, parce qu'il y a des civils qui sont comportés comme des...
Oui.
Ah ben, c'était ouvert. Les maisons étaient éventrées, c'était à tout le monde. Et maman a retrouvé plus tard un manteau, un petit manteau d'été bord à bord, qui était reconnaissable. Hein. Elle l'a vu sur le dos d'une femme. Elle n'a pas osé rien dire, comment prouver que c'était le sien?
Oui, bien sûr.
Bon, voilà.
Ah, ben écoutez.
Oui, oui.
C'était quand même une expérience pour
une jeune fille. C'est inoubliable, on ne peut pas oublier ça. Et c'est pour ça, voyez-vous, j'ai commencé à relater ça par écrit, parce que je me suis dit, ma mémoire, et puis j'ai l'âge, et il faut quand même pas oublier ça.
Ah oui, ben
peut-être que tu pourras lire un jour mes mémoires.
Ben vous n'avez pas oublié grand-chose, en tout cas.
Parce que ces choses-là,
tout ce que vous nous avez dit, c'est resté. Hein,
oui, c'est-à-dire, non, j'ai du mal à préciser, oui. Je peux commettre des erreurs de date. Mais enfin, je peux me recouper avec ça,
oui,
ce livre-là, qui est très précieux.
Oui.
Et bon, et puis, il faut simplifier. Hein,
oui.
On peut pas.
Alors, vous nous dites votre maison. Est-ce que vous, ensuite, votre famille a eu des dommages de guerre,
alors,
a pu reconstruire?
Il n'était pas propriétaire.
Ah oui, bien sûr.
Alors, pour le principe, ils ont reçu une petite indemnité, oui. Mais ils n'étaient pas propriétaires.
Oui, mais la marchandise.
Ah, mais non. Le fond, pas, non.
Non, mais les affaires personnelles.
Mais on a tout perdu.
Oui, mais vous n'avez pas été indemnisé.
Mais comment? Si tu savais, voyons, c'était forfaitairement, oui. Vous êtes tant, moi j'étais logée chez mes parents, donc je n'avais droit à rien, alors que j'avais commencé, quand je gagnais un petit peu d'argent, c'était comme ça autrefois. Hein, on commençait par s'acheter des serviettes de toilette, quand papa vendait de la vaisselle, quand on me faisait un cadeau pour mon anniversaire ou ma fête, il disait, ben choisis, qu'est-ce que tu voudrais? J'avais un service à café, j'avais bon.
Comme
on fait quand on a 18 ans et puis que voilà.
Et à cette époque-là, on faisait des trousseaux.
Oui, oui, bien sûr. Bon, je ne vais pas commencer le trousseau parce que. Mais enfin, si, des torchons, des serviettes de table,
des draps,
des choses. Bon, mais tout ça, ça a disparu. Mais on ne peut pas comptabiliser. On n'a plus rien, vous n'avez plus rien. Bon, vous êtes tant de personnes. Bon, ben, vous aviez droit à tant. Je ne sais pas combien c'était. Bon. Moi, j'ai rien touché parce que j'étais chez mes parents, donc j'étais censée ne rien avoir.
Est-ce que votre papa a repris une épicerie après?
Oh là là. Alors là, c'est encore un autre chapitre. Il était malade, hein, déjà. Et quand on était à Limoges, le médecin a dit, il faudrait que vous soyez opéré, mais ça serait mieux que vous montiez dans l'hôpital. Avez-vous encore des hôpitaux à Meudon? On ne sait rien, on ne sait pas.
Ah, bien sûr.
Bon, il avait déjà eu des opérations et tout. Hein. Enfin, il en a eu tellement. Alors, quand on est remonté, il n'y avait plus de maison, il n'y avait plus d'habitation. Alors, il fallait trouver à se reloger. Alors, ils ont été. Tiens, j'ai un témoin.
Et c'est intéressant aussi, c'est utile de savoir comment vous avez été relogé, effectivement.
Comment? Oui, justement. Oui. Justement.
C'est important. Oui.
J'ai toujours aimé dessiner, du reste ça fait partie aussi de ma vie, ça. Dessiner. Et alors, ils ont été relogés chez des cultivateurs à Croisy. Croisy, ça touche aussi, quand on vient de Caen, Croisy, c'est le pays juste avant la première pluie. Alors, des cultivateurs que l'on connaissait, et bon, qui ont. Chacun cherchait à se reloger comme il pouvait. Il y en a qui ont eu la chance d'être logés dans des grandes belles maisons bourgeoises de la rue de Condé, si vous connaissez, bon, qui sont restées encore. Alors, il y avait des gens qui étaient, hein, il fallait bien partager.
Ah,
il y avait des gens, voilà. Mais
nous,
comment les rentrer tard? Il n'y avait plus de logements disponibles. Et alors donc, mes parents se sont trouvés relogés dans cette chaumière-là. Alors, c'était une chaumière qui leur servait de débarras. Ils mettaient du matériel agricole, ils mettaient, bon, la toiture en chaume, ben, il pleuvait, il y avait une réserve pour leurs pommes, pour tout ça. Ils avaient dit, écoutez, on n'a que ça à vous offrir. Bon, alors, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais toujours est-il que. Alors, il y avait ma grand-mère, une sœur de ma grand-mère. Qui était une grande tante, qui elle habitait Saint-Lô, qui a été dévastée.
Oui,
donc, elle, même topo, elle n'avait rien trouvé que de rejoindre sa sœur et mes parents. Et alors, il y avait une petite pièce où les deux grands-mères dormaient. Et mon père logé dans la pièce principale. Il y avait une espèce d'alcôve, il y avait un lit, là, de deux personnes. Il pleuvait dessus. Alors, maman avait mis des toiles cirées sur le lit et il y avait un grand parapluie qui était. Oui, c'était. On a connu la misère. Hein. Et Alors moi, à ce moment-là, j'étais encore à Saint-Bénin, donc je n'étais pas la plus malheureuse. Mais je venais toutes les semaines parce que je ne pouvais pas les laisser comme ça. Alors quand j'arrivais, moi, ben, j'avais une carcasse de sommier en métal qu'ils avaient trouvée dans un fossé. Et bon, on avait une paillasse dessus, je dormais là. Et alors, complètement démunie de vaisselle, de tout. Alors peut-être que Madame Beaulieu, la propriétaire, avait dû passer quelques récipients à un moment. On cuisinait dans l'âtre, il y avait une cheminée dans l'âtre. Ouais, il y avait une cheminée. Et alors je me rappelle, on allait. Alors il fallait faire attention parce que dans les fossés, il y avait plein de mines, plein d'engins, plein d'obus, tout ça. C'était très dangereux, mais enfin bon, on faisait attention, il fallait vivre. Hein. Et alors, un jour, maman me dit, ah, oh, je suis contente, tiens, j'ai trouvé ça. C'était un gobelet anglais, émaillé. Elle avait enfin trois pour tremper la soupe. Parce qu'autrement, je ne sais pas comment elle faisait, mais bon. Enfin, c'est un détail, oui, mais c'est pour vous dire, quand on n'a rien, c'est rien.
C'est effectivement. Et donc, vous avez été relogée plusieurs années après.
Alors après, ils ont quitté d'ici. Et ils ont été relogés là, dans une maison sur Esson, mais pas loin de. Sur la route de Falaise. Alors là, c'était une maison appartenant à un des cultivateurs aussi, qui n'occupait pas, et qui était correcte. Qui était correcte. Oui. Oui. Parce que pendant tout ce temps-là, alors je ne sais pas comment vous dire.
Comment ils vivaient? Avec quoi qu'ils vivaient?
Je ne sais pas. Il va avoir quelques économies.
De la charité, peut-être?
Non.
Ou d'indemnités.
Oui, les petites indemnités, oui.
Ça se fait.
Mais alors, il faut dire, papa a été il faut dire, il est mort en 5 ans. Mais il a, entre 45 et 50, il a une vie. Et il y a des opérations. Alors, il fallait venir à Caen. Heureusement, le docteur Gourdin, M. Gauthier, le maire, tout le monde était vraiment, vraiment.
Ils ont courage.
Ah oui, et puis ils ont été généreux. Oui. Ils ont été, oui, transportés en voiture et tout à Caen et tout pour ces opérations. Et alors, oui, alors, une de ces opérations, ben, à l'hôpital de l'avenue Clémenceau,
oui,
qui avait été touché. Et je me rappelle avoir été le voir une fois. Alors, les trains avaient été rétablis. Et j'arrivais à la gare de Caen, et de Caen à l'hôpital à pied, avec des chaussures qui me faisaient mal, mais ça fait rien, il fallait y aller jusqu'à l'hôpital. Et il était dans une chambre, et ben après c'était le vide. Quand on ouvrait la fenêtre, il n'y avait plus rien. Bon, il y avait une bombe qui était tombée là. Bon, il a été opéré et quand il revenait, ben, là, logé dans ça. Alors après, bon, on a donc changé de. Ils ont donc changé de logement. C'était mieux. Après, ils ont pu revenir sur Thury-Harcourt. Là, ils ont été logés. Mais ça, c'est des années après, hein, quand même. Oui. Je brûle un peu les étapes. Parce qu'ils ont été logés dans une maison suédoise.
Ah oui,
voilà.
Bien sûr.
La Suède.
Comme il y en a à Caen.
Voilà. Mais.
Neuf, alors.
Alors, c'est là que papa est décédé. Voilà. Et alors après, parce que ça coûtait cher. Et maman dit, on ne peut pas rester là, c'est trop cher pour nous, on ne peut pas. Alors après, ils ont quitté, donc maman et la grand-mère et la tante, ils ont habité à un baraquement américain. C'était plus petit, mais il y avait l'eau, il y avait. Bon.
Une salle de bain, sûrement.
Il y avait une salle de bain. On n'avait jamais connu ça avant la guerre. Moi, je n'y étais pas, là, hein, parce que je n'étais plus. Je n'étais plus à Caen, moi. Je n'étais plus à Harcourt. Là. Parce que, comment vous dire, c'est compliqué, hein. J'ai peur que ce soit bien confus, tout ça. Enfin, vous pourrez me recontacter ici pour. Oui, alors ça, pour finir, c'était. Comme on aimait la campagne, eh ben, il y avait toutes ces petites bêtes là autour. Eh ben, l'été, on se tirait parce qu'on vivait dehors. Moi, ça m'a toujours tenu ça. Et j'avais crayonné ça. J'avais dû retrouver quelques crayons de couleur et j'avais crayonné ce petit paysage. Et ça n'est qu'après que je l'ai refait à l'huile.
Voilà, c'est très bien. Parce que,
c'est un souvenir. Et j'ai ajouté de mémoire la silhouette de papa. Voilà. Qui était déjà très. Très très malade à ce moment-là.
Vous avez peut-être enjolivé les lieux.
Ah non.
Non.
Non, parce que moi je ne change rien. Je fais ce que je veux. Au contraire, je veux que ce soit comme une photo un peu fidèle. Non. Et alors moi, pendant ce temps-là, pendant ces années-là, moi j'étais donc entrée en 45 à la société d'électricité de Caen qui avait une succursale à Turgarcourt, si on peut dire, 46, 47, et là, on a demandé quelqu'un pour Falaise, qui était en ruine aussi. Alors la personne qui était pressentie, son mari était bourrelier à Turgarcourt, et il a dit, ah non, moi je quitte pas, moi j'ai mon travail là. Sa maison était restée debout sur le haut de la rue de Condé, elle était là. Donc cette dame-là n'est pas partie. Alors on m'a demandé moi. Bon, j'ai dit oui. Je connaissais personne à Falaise, je savais simplement une chose, c'est que Falaise n'était qu'une ruine. Alors dans l'intervalle, j'avais eu le droit à m'acheter un vélo parce que j'avais prouvé, démontré que. J'avais tant de distance à faire pour aller à mon travail, descendre au bas de la côte du château. Alors que, à ce moment-là, mes parents étaient logés rue de Falaise. Alors, donc j'avais eu droit à un bon, aller à la préfecture de Caen pour prouver que, etc., j'avais eu droit à un vélo.
C'est la préfecture qui vous avait octroyé un vélo.
Ah oui, parce que fallait. Ah, oui, c'est la préfecture qui. Oui, c'était très. Il n'y en avait pas, hein, les usines.
En 45, tout était détruit.
Mais c'est ça, ça. Sortait de la guerre. Hein.
Tout était désorienté.
Il y avait encore des bons, bien sûr.
Ben, les tickets ont duré jusqu'en.
48 ou 9.
Oh oui, c'est ça. Oh, facile. Et même peut-être 48, plus.
9. Non, pas en 5. 48 ou 9.
Oui. 45, oh oui. Et alors, moi sur l'entrefaite, donc j'ai été mutée à Falaise. Alors, avec mon vélo, ce que je pouvais mettre dans mes sacoches, j'avais pas grand chose. Eh bien, va pour Falaise. Alors, je passe sur les détails parce que Falaise étant en ruine, j'ai connu aussi des logements de fortune. Et puis après, grâce à mon chef de subdivision, ça s'est arrangé. C'est un chapitre à part. Mais j'ai passé 9 ans à Falaise avec pour seul moyen de locomotion mon vélo. Et comme je savais que mes parents, ils appréciaient. Que les week-ends, je vienne les voir. Alors, j'ai fait je sais pas combien de centaines de kilomètres.
Combien y a-t-il de kilomètres entre...
Alors, je crois que 30 et quelques. Oui.
Chaque week-end. Ah. Chaque week-end.
Oui. Quand en hiver, il y avait quand même des périodes où je le faisais pas. Mais j'ai quand même roulé sur... Parce que la santé de mon père étant... Tellement, je ne pouvais pas rester là-bas sans nouvelles, sans rien. On n'avait pas de téléphone, il n'y avait rien. Alors des fois, je prenais mon vélo, fallait que je vienne. Quoi. Et l'année de son décès, quelques semaines avant, j'étais venue comme ça. Et il me dit, mais comment ça se fait-il là? Je dis, parce que j'ai oublié quelque chose et je suis revenue me chercher. Ce n'était pas vrai du tout, mais je ne pouvais pas supporter l'idée de...
Bien sûr.
Comme ça.
Oui, 30 km aller et 30 km retour.
Oui, alors, l'allée d'Harcourt à Falaise, c'était. Parce qu'il y a des fameuses côtes. Oui. Côte de Mêlée, les côtes du Cy, mais je faisais. Oui. Je gravais tout.
Et puis il y a de la plaine et il y a du vent.
Alors, la plaine du Cy, et j'ai connu le vent et j'ai connu des orages. Et alors là, ça canardait. C'était plus la guerre, mais c'était quand même. Et pour revenir, alors les côtes, c'était dans le bon sens. Oh, alors là, ça déballait. Alors là, c'était un plaisir. Hein.
Sauf si vous aviez le vent dans le nez.
Oui, mais
non. Enfin, ça allait quand même.
Le vent dans le nez. Et pour monter les côtes, c'était... Oui. Mais
Est-ce que ton vélo avait un dérailleur?
Ah oui.
Oui.
J'avais trois vitesses.
Oh, c'était un vélo moderne.
Pas. Oui, oui, oui. Alors quand je vois les vélos de mes petits-neveux, oh là là, je dis, bah, trois, je m'en arrangeais bien, moi, mais comment vous faites vous... Oh, mais non, mais c'était pas tant. C'est... D'accord. Mais je me suis jamais risquée à... Hein, je sais pas comment. Mais moi, oui, oui, je me servais très bien de mes trois vitesses, et avec ça, je roulais. Hein.
C'est son secret de longévité.
Voilà. Hein, vous en faites
plus. Secret de longévité.
Peut-être.
Vous ne faites plus
ça. Et le jardin, comme... Ah ben, le vélo, je l'ai abandonné en venant à Cambrai.
Mais elle fait encore plus son que... jardinage.
Ah, c'est bien.
Oui. Parce que je suis restée donc à Falaise, en ruine, donc 9 ans, et puis un jour j'en ai eu marre. Et la subdivision qui était repliée à Falaise, en fait, c'était celle de Condé. Et un jour, le centre de camp, la direction, informa le personnel que bon, ben, les bureaux de Condé sont construits, et le personnel, vous allez être... Alors chacun s'inquiétait, mais il faut comment on sera logé, bon et tout. Moi je m'inquiétais de rien. Et, mais bon, je dis non, parce que moi je veux aller à Caen, moi j'irai pas à Condé, j'irai à Caen. Et mon chef de subdivision qui connaissait ma situation, j'avais de la famille à Caen, parce que mon frère aîné était revenu à Caen, après toutes ces péripéties de guerre, il s'était marié et tout, et ils habitaient à Caen. Je dis non, moi je veux aller à Caen. Alors mon chef de subdivision, le patron, a appuyé ma demande et il était passé un appel d'offres, parce que j'étais toujours employée, bon, comptabilité, écriture, etc. Je chiffrais des mètres de câbles, des branchements, des trucs, c'était pas, ça n'avait rien de poétique, mais enfin, c'était mon travail. Et un jour passe... une demande de mutation, un poste à pourvoir, secrétaire médical du médecin du travail. Alors moi, je vois ça passer, secrétaire médical, c'est pas pour moi ça, je passe. Alors le chef de bureau revient me trouver, il me dit, pourquoi vous n'avez pas postulé, bon, je dis, la médecine, qu'est-ce que j'ai à voir avec la médecine, moi, je me suis postulé, donc vous ferez sur le tas, et puis secrétaire, ah bon, alors j'ai fait ma demande. Alors j'étais convoquée au centre de camp, il y avait plusieurs candidats, alors je dis, on m'a cuisiné, sur ma discrétion, il paraît qu'ils avaient de bonnes... Puis le monsieur de Nicolas, à qui j'ai su beaucoup de gré, avait dû bien présenter les choses, alors j'ai été prise comme ça. Alors je suis revenue à Caen en tant que secrétaire médicale, j'ai fini ma... Alors ça c'était en 47... Et de 47 à 82, ma retraite, j'étais secrétaire médicale. Alors là, ça m'a plu.
Ben, Madame Fouché, merci pour
Je ne sais pas si vous pourrez.
Si, parce que.
Mais si vous voulez des compléments, vous me demandez. Hein.
Écoutez, merci beaucoup. Mais vous nous avez. Vous avez évoqué la guerre du point de vue d'une jeune fille, d'une habitante de Thury-Harcourt, pas du point de vue d'un soldat. Et c'est très intéressant de voir. Quelle a été votre vie quotidienne, votre expérience.
Oui.
Et je trouve que c'est un point de vue qu'on n'a pas toujours.
Ah bon?
Oui, je me rends pas compte. Des femmes dans la guerre, quoi.
Oui, mais enfin, moi, j'ai pas joué de rôle. Mais...